Bonjour et bienvenue. On a reçu une pile de documents qui, à première vue, décrivent un événement culturel, une exposition photo en Polynésie française.
Oui, un projet assez classique, on pourrait croire.
Exactement. Mais en lisant entre les lignes, on a senti qu'il y avait. Beaucoup plus. Le projet s'appelle Te Mata O Te Fenua, Héritage et Horizon. C'est prévu pour fin 2026.
C'est ça.
Alors, notre mission aujourd'hui, c'est de partir de ce dossier de présentation et de décortiquer ensemble la mécanique de ce qui s'annonce moins comme une simple expo que comme une véritable affirmation culturelle.
Une affirmation sur la scène mondiale, même.
Complètement. On va suivre le fil.
Et le premier fil à tirer est assez spectaculaire. C'est la date, novembre 2026.
Ah oui.
Ça peut paraître anodin, mais c'est un moment de convergence historique et presque cosmique. D'un côté, le monde entier célèbre le bicentenaire de l'invention de la photographie.
200 ans, d'accord.
200 ans que l'humanité sait capturer la lumière. Et de l'autre, précisément au même moment dans le ciel polynésien, c'est le Matari Inia.
Le lever des Pléiades.
Exactement.
Et le Matari Inia, ce n'est pas juste un événement astronomique, n'est-ce pas? Il y a une charge émotionnelle, culturelle, bien plus profonde.
Ah ben oui, c'est ça qui est puissant. Il faut imaginer que pendant des générations, ce signal dans le ciel, c'était la fin de la période de disette, la Matari Raro.
D'accord.
C'était le début de la saison d'abondance. La promesse de fruits, de pêche, de renouveau.
C'est un soupir de soulagement collectif, en quelque sorte.
C'est exactement ça, un soupir de soulagement écrit dans les étoiles. Et là, les organisateurs ont décidé de faire coïncider cette lumière ancestrale qui annonce la vie avec la célébration de la lumière technique, celle de l'appareil photo. Le symbole est...
C'est d'une puissance folle.
Voilà.
C'est une accroche incroyable. La rencontre de la tradition et de la modernité, mais de manière très, très poétique. Et le nom du projet, Te Mata O Te Fenua, ça semble découler de ça. Les yeux de la terre, c'est bien la traduction.
C'est ça. Et ce titre pose la question centrale qui va, en fait, irriguer tout le projet.
Qui est ?
Comment un territoire, le Fenua, se perçoit-il lui-même ? Et en même temps, comment est-il perçu de l'extérieur ? C'est une introspection et une confrontation.
D'accord.
Et pour y répondre, ils ont défini deux grands axes. D'abord, héritage. Là, on regarde vers l'intérieur, vers le passé, la mémoire, les traditions.
L'empreinte de la culture sur les paysages.
Exactement. Et ensuite, horizon. Et là, on regarde vers l'extérieur et vers l'avenir. L'ouverture, les voyages, la transformation.
Bon, le cadre est posé, mais comment est-ce qu'on traduit une question aussi vaste en une expérience concrète pour un visiteur? Quelle est l'idée au cœur du projet?
Alors, c'est là que réside le génie du concept, qu'il nomme les regards croisés.
Regards croisés?
Oui, c'est un dispositif artistique qui va orchestrer un face-à-face. D'un côté, on aura les photographes du collectif local Objectif Image Tahiti.
D'accord, donc un regard de l'intérieur.
Voilà, le regard endogène. Eux, ils photographient un quotidien, une culture, des paysages qui sont les leurs. C'est une vision intime.
Un peu comme si quelqu'un décrivait sa propre maison, avec les souvenirs, les craquements familiers, les marques sur le mur.
C'est une très bonne image. Et en face, pour incarner le regard exogène, celui qui voit la maison pour la première fois, ils ont invité une signature internationale, Jimmy Nelson.
Ah oui, quand même, un nom immense.
Immense. Mondialement connu pour son travail sur les cultures autochtones. Il apporte ce regard extérieur, neuf, peut-être plus esthétisant, qui remarque des détails que l'habitude a rendus invisibles.
Alors là, une question me vient tout de suite. Jimmy Nelson, c'est un grand nom, mais faire venir un photographe européen pour poser son regard sur une culture du Pacifique, est-ce qu'il n'y a pas un risque de retomber dans un regard un peu colonial, même sans le vouloir, le bon sauvage revisité, quoi ?
C'est la question cruciale. Et le dossier montre qu'ils y ont vraiment pensé et qu'ils ont trouvé la parade la plus intelligente qui soit.
C'est-à-dire ?
Jimmy Nelson, il ne débarque pas avec son portfolio sous le bras. Ce ne sont pas des images déjà existantes. Le projet stipule très clairement qu'il sera en résidence artistique de plusieurs semaines aux Marquises.
Ah !
Dès juin 2026. Il ne vient pas prendre des images. Il vient les créer en immersion, en dialogue avec les communautés.
Ah, ça change tout. Ça change vraiment tout. La démarche n'est pas extractive, elle est collaborative. Il ne vient pas en touriste, mais en créateur qui s'imprègne.
Ça change absolument tout. Cette résidence, c'est la garantie d'une authenticité, d'un respect, et ça transforme ce qui aurait pu être une confrontation en une véritable conversation.
Et ça nous amène directement à l'ambition globale du projet, j'imagine.
On y vient.
Justement, au-delà de ce concept artistique très fort, quel est le but final? C'est juste de faire une belle expo ou est-ce qu'il y a un message plus politique?
Il y a une phrase dans le dossier qui est très, très révélatrice. L'objectif, c'est de positionner la Polynésie comme un acteur de la célébration mondiale et non comme un simple décor de carte postale.
C'est une affirmation d'une force immense.
Oui, c'est refuser d'être l'objet du regard pour devenir le sujet qui regarde et qui invite le monde à regarder avec lui.
Et de là découlent des ambitions plus précises.
Quatre, très claires. La première, le rayonnement international. S'inscrire dans l'agenda culturel mondial. La deuxième, affirmer la Polynésie comme un territoire de création.
Un endroit où l'art se pense et se produit, pas seulement où il se contemple.
C'est ça. La troisième, créer un temps fort culturel, un événement marquant localement et pour les visiteurs. Et la quatrième, c'est la plus stratégique, la valorisation locale.
Et c'est là que je me pose une autre question. Mettre des artistes locaux, aussi talentueux soient-ils, à côté d'une superstar comme Jimmy Nelson, est-ce que ça les élève vraiment ou est-ce que ça ne risque pas de les éclipser involontairement?
Le risque existe, bien sûr, mais la structure du projet semble vraiment conçue pour le neutraliser. Il ne s'agit pas d'un concours.
D'accord.
En créant un dialogue thématique sur un pied d'égalité, le Fenouin, on ne compare pas les styles, on compare les perspectives.
Je vois.
Le regard de Jimmy Nelson, par son prestige, agit comme un projecteur. Mais ce projecteur n'éclaire pas que ses propres œuvres, il éclaire toute la scène, y compris, et peut-être surtout, les photographes locaux qui lui répondent.
Par effet de miroir.
Exactement. Leur travail acquiert une nouvelle visibilité, une nouvelle légitimité sur la scène internationale. C'est une mise en orbite, pas une mise en concurrence.
C'est une stratégie de légitimation par la conversation. C'est subtil, c'est bien pensé.
Et la conversation est encore plus profonde qu'il n'y paraît, parce qu'il y a un troisième interlocuteur dans ce dialogue.
Ah bon ?
Un invité surprise, en quelque sorte. Le temps lui-même. Le coproducteur de l'événement, c'est le musée de Tahiti et ses îles, Tefare Yamanara. Il ne se contente pas de prêter ses murs.
Qu'est-ce qu'il apporte de plus?
Il ajoute une strate historique au dialogue. Le musée va puiser dans ses réserves pour exposer des œuvres, souvent méconnues, des tout premiers photographes tahitiens de la fin du 19e et du début du 20e siècle.
Attendez, donc on n'a pas seulement un dialogue géographique entre l'intérieur et l'extérieur?
Non.
Mais aussi un dialogue temporel. Les photographes polynésiens d'aujourd'hui qui répondent à leurs propres aimés d'il y a plus de 100 ans.
C'est précisément ça. Imaginez la mise en abîme. Une photo d'objectif image Tahiti, d'un paysage de 2026, à côté d'un tirage d'époque du même lieu, ou presque, capturé en 1900.
C'est incroyable.
On ne regarde plus seulement une image. On regarde l'épaisseur du temps, ce qui a changé, ce qui demeure. La thématique « héritage » prend alors une dimension
vertigineuse. C'est fascinant. On sent que chaque élément est pensé pour enrichir les autres. Mais concrètement, pour le visiteur, ça se limite aux salles d'expo ou est-ce qu'il y aura des rencontres, des échanges?
Absolument. L'idée n'est pas de créer un temple silencieux, mais une agora. Le dossier parle d'un vernissage d'envergure, bien sûr, mais insiste surtout sur un programme de rencontres publiques.
D'accord.
Il y aura une grande conférence, une table ronde avec les artistes locaux et internationaux, et même une masterclass dirigée par Jimmy Nelson.
Donc on partage les processus créatifs, on débat.
Exactement. Et pour que tout ça ne soit pas éphémère, il prévoit la production de contenus vidéo, d'interviews, pour créer une archive durable de cet événement.
Une expérience complète. Mais il y a un point dans le dossier qui m'a particulièrement interpellé, c'est le volet solidaire.
Ah oui.
Ça semble aller encore plus loin dans la philosophie du projet.
C'est le point qui, à mon sens, ancre définitivement le projet dans une éthique de la réciprocité. C'est un engagement caritatif, très concret, et qui boucle la boucle de manière admirable.
Comment ça fonctionne ?
Le mécanisme est simple. 3 à 4 tirages d'art de Jimmy Nelson, issus de sa résidence aux Marquises, seront vendus aux enchères.
Et les fonds, ils vont où ?
C'est là que tout prend son sens. Les bénéfices seront intégralement reversés pour financer un projet choisi par les communautés locales aux Marquises.
Dans quel domaine ?
Culturel, patrimonial ou pour la jeunesse. Le dossier le résume en une phrase parfaite. Les images des Marquises reviennent au FENUA pour financer un projet concret sur le territoire.
C'est une boucle vertueuse. L'art inspiré par le territoire vient directement nourrir ce même territoire. Ce n'est pas un artiste qui vient, prend des images et repart avec la valeur créée.
Non.
La valeur est partagée, elle est réinvestie sur place. C'est une déclaration éthique très forte.
C'est une rupture totale avec une certaine histoire de l'art ou de l'ethnographie. La création de valeur est partagée, c'est inscrit noir sur blanc.
Un projet d'une telle ampleur, avec une résidence d'artistes, des tirages grand format, ça doit représenter un budget colossal. Comment est-ce que ça se finance? Qui sont les partenaires?
Et c'est là qu'on découvre une autre facette du projet. Ce n'est pas seulement une opération artistique, c'est aussi une opération stratégique montée avec une intelligence redoutable.
C'est-à-dire?
Ce n'est pas du mécénat classique où on donne de l'argent pour un logo. C'est un véritable écosystème où chaque partenaire a un intérêt stratégique direct, tangible.
Expliquez-moi ça. Prenons le premier, Tahiti Tourisme.
Tahiti Tourisme, c'est le partenaire image et rayonnement. Bien sûr, ils apportent un soutien logistique essentiel. L'hébergement, les transports. Mais leur retour sur investissement est bien plus grand.
Lequel?
En s'associant à cet événement, ils obtiennent des contenus visuels et éditoriaux de très, très haute qualité. Ils peuvent valoriser la destination Polynésie bien au-delà de la plage et du cocotier. Ils ne financent pas une expo, ils investissent dans un storytelling authentique et prestigieux.
D'accord, c'est un échange gagnant-gagnant très clair. Et pour le transport aérien, c'est le même principe, j'imagine.
Exactement le même. Le partenaire, c'est Air Tahiti Nui. Leur rôle, c'est celui de l'ambassadeur culturel. Ils prennent en charge les vols internationaux, le fret pour les œuvres.
Ce qui coûte très cher.
Très cher. Et en contrepartie, ils obtiennent du contenu exclusif, premium, pour leur magazine de bord. Le projet devient une histoire qu'ils peuvent raconter à leurs passagers pendant des mois, ce qui renforce leur image de compagnie haut de gamme connectée à la culture.
C'est du marketing de contenu de très haut niveau.
Voilà, et l'agence Smile Communication orchestre tout ça.
Et pour la production même des œuvres, les tirages physiques?
Ça, c'est un poste de dépense crucial. Et c'est là qu'intervient le mécénat privé. Des entreprises sont sollicitées spécifiquement pour financer la production des tirages grand format. Leur bénéfice, c'est une association d'images avec un projet culturel d'excellence. Chaque pièce du puzzle a sa place.
Si on prend un peu de recul, ce qu'on voit se dessiner est bien plus complexe qu'une simple exposition. C'est une plateforme à multiples facettes.
C'est exactement ça. Pour la Polynésie, c'est une opération d'affirmation culturelle. Une façon de dire au monde, nous ne sommes pas seulement un paysage de rêve, nous sommes un foyer de création et de pensée.
D'accord.
Pour les partenaires, c'est une occasion unique de s'associer à un projet à très haute valeur symbolique. Et pour le public, qu'il soit d'ici ou d'ailleurs, c'est la chance de vivre un moment unique où l'histoire mondiale de la photo rencontre les traditions ancestrales.
Au fond, si on résume l'esprit de ce projet, qu'est-ce que tout ça nous dit? On est parti d'un dossier pour une exposition et on a découvert une mécanique bien plus vaste.
On a découvert que Te Mata Otefenua est une immense plateforme de dialogue. C'est un dialogue entre le local et le global, à travers ce face-à-face des photographes.
Oui.
C'est un dialogue entre le présent et le passé, en connectant les créateurs d'aujourd'hui à leurs prédécesseurs. Et c'est un dialogue entre l'art et la société à travers le volet solidaire. C'est une démarche qui ne se contente pas de montrer la culture polynésienne.
Elle l'utilise comme un moteur.
Elle l'utilise comme un moteur pour créer du sens, du lien et de la valeur. C'est une culture vivante, en action.
C'est une vision incroyablement complète.
Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question fondamentale que l'exposition ne résoudra sans doute pas, mais qu'elle posera avec une acuité nouvelle.
Je vous écoute.
En confrontant de manière si directe ce regard de l'intérieur et ce regard de l'extérieur, le projet nous interroge sur la nature même de la vérité en photographie. Quelle perspective capture le mieux l'âme d'un lieu?
Est-ce le regard intime de celui qui y vit?
Chargé d'histoire personnelle, de codes culturels? Ou est-ce le regard neuf de l'étranger, capable de percevoir une beauté que l'accoutumance a effacée?
Ou est-ce que la vérité n'est ni dans l'un ni dans l'autre?
Où émerge-t-elle précisément de la friction, du dialogue, de la tension fertile entre les deux? C'est peut-être ça la question que chaque visiteur emportera avec lui.